RMC, 21h, 22h.
6 seconds to go.
Tony Parker Show.
Tony Parker with a goal.
Pierre Dorian et Tony Parker.
Avec Jacques Monclar, c'est votre rendez-vous basket tous les lundis soirs, 21h, 22h, en direct de San Antonio. Comment ça va, Tipeee?
Ça va bien.
28 degrés, j'ai vu. À San Antonio aujourd'hui.
Il fait super beau. Franchement, on a eu un super day off hier. C'était sympa avec la famille. C'est vrai qu'on en a bien profité.
Alors que Jacques, lui, s'apprête à mettre la grosse doudoune pour aller au Canada pour le All-Star Game.
Ça, ce sera la semaine prochaine. Avant, j'ai peut-être croisé un peu de soleil. Bonsoir à tous.
Tu vas te faire toi aussi ton road trip aux États-Unis.
Hein. Voilà.
Et tu passes d'abord par San Antonio et ensuite Toronto.
Voilà, c'est direct, comme
bon,
ça.
Il te faut une grosse valise, hein. Il faut les tongs et la doudoune. Alors, au programme aujourd'hui.
On va bien s'occuper de Jack, là. Il va profiter du soleil.
On va parler des Jeux Olympiques avec Julien Bento, qui espère se qualifier pour Rio. Et puis, côté basket, la proie avec le joueur de Limoges, Nobel Bungu Kolo. Et puis, une petite jeune à suivre. Côté équipe de France féminine, c'est Marine Johannes, la joueuse de Mondeville. Il y a beaucoup de talent, on va la découvrir tout à l'heure. Et évidemment, il y a beaucoup d'actu NBA et beaucoup d'actu basket tout court. On suivra le match de Ligue 2 entre le Paris FC et Clermont. Voilà le programme, c'est parti pour une heure de Tipeee Show.
RMC, le Tony Parker Show. Tipeee Inside.
Tiens, bon, on va tout de suite aller voir comment ça se passe, Jérôme, entre le Paris FC et Clermont en Ligue 2.
Ouais, 33 minutes de jeu ici à Charletti, toujours 0-0 entre le Paris Football Club et Clermont dans cette rencontre de la 24e journée très importante pour le PFC, toujours en quête d'une victoire depuis le 14 août, 5 mois sans le moindre succès pour les Parisiens. À noter seulement du côté de Clermont une frappe, celle de Rémi Dugimon, l'ailier droit, une belle frappe pied gauche des 16 mètres bien captée par le gardien et capitaine du PFC, Alexis Thébault. 0-0 et la 34e minute de jeu ici à Charletti entre le PFC et Clermont.
Merci Jérôme, allez c'est parti, on a du pain sur la planche parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. Évidemment on parlera du tournoi de qualif.
Avant de commencer j'ai une petite nouvelle à annoncer. Donc j'aimerais dire à tout le monde que ma femme est enceinte et que Josh va avoir un petit frère.
Ah.
Donc voilà pour la bonne nouvelle. Ça fait plusieurs mois qu'on le sait, donc ça fait plaisir de pouvoir l'annoncer.
Donc un deuxième garçon, tu fais que des mecs.
Deuxième garçon.
Ah ben, on dit félicitations dans ces cas-là, Pierrot, d'abord. Félicitations. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre.
Bravo, écoute. Hein.
Ben, merci. Merci, okay. Merci.
Tes nuits vont encore se raccourcir un peu, du coup.
Pas tout de suite.
Mais exactement. Non, mais en plus, c'est clair que ça va être compliqué parce que c'est pour fin juillet. Donc, va falloir voir pour l'équipe de France. Je sais pas encore ce que je vais prendre comme décision. Donc, c'est pour ça que c'est une grosse nouvelle. Il va falloir que je parle avec l'équipe de France et voir ce que je vais faire. Et négocier avec ma femme aussi parce que c'est vrai que ça va pas être facile par rapport au timing.
Ah oui, alors là, c'est plus du tout la même nouvelle. Hein, puisque le tournoi de qualif olympique a lieu au mois de juillet. Si l'arrivée de ton bébé est prévue fin juillet, le problème c'est que le tirage au sort nous a donné les Philippines. Donc on ira jouer aux Philippines. Ce qui veut dire que pour toi évidemment c'est pas évident de conjuguer les deux, quoi, en gros. Hein.
Et ça c'est début juillet de toute façon. Et après les jeux, t'as un nouveau dé et tu pars au jeu le 5 août. Quoi. C'est un coin de calendrier compliqué.
Donc en gros.
Très compliqué le calendrier.
En gros, tu n'as pas pris.
Donc, je sais pas, j'ai pas pris de décision encore, je sais pas encore, on va voir.
D'accord, mais quand tu dis j'ai pas pris de décision, tu envisages la possibilité de faire une croix sur l'été olympique, en fait.
Bah, on verra. Il faut que je discute avec ma femme, il faut que je joue avec l'équipe de France, on verra.
D'accord, donc c'est une décision que tu prendras pas uniquement en famille, mais aussi en prenant l'avis de la Fédé et de tes coéquipiers.
Ouais, ça va dépendre, voir, tu sais, c'est. Les temps off, combien de temps Vincent il nous donne après le tournoi aux Philippines, faut voir.
D'accord. Bon, bah, gros dossier à suivre là. Pour le coup, la bonne nouvelle se transforme en nouvelle.
Non, mais c'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle parce que moi je suis très très content et on a grandi la famille, donc c'est génial.
Bon, par contre, dès que tu avances dans ta réflexion, tu nous dis tout, hein, parce que ça va être un vrai feuilleton pour le coup. Et j'imagine que t'as déjà mis au courant Vincent Collet pour le coup.
Non, il n'y a personne qui est au courant à la Fédé parce que je l'annonce aujourd'hui en direct sur RMC. Donc il n'y a personne qui est au courant que ma femme est enceinte, il n'y a personne.
Donc grosse annonce. Tu sais ce qu'on va faire? On va se tourner vers la rédaction d'RMC. Tu sais, on va leur dire, vous appelez tout de suite Vincent
Tony,
Collet.
Il a son nez qui s'allonge, si c'est encore possible, Pierrot, tu vois. Quel état.
Non mais c'est en plus c'est la vérité hein, c'est la vérité, la Fédé ils sont pas au courant donc je vais leur parler demain.
Ils vont vite l'être, mais il y a 2-3 personnes qui écoutent.
Donc je leur parlerai puis on verra bien.
Bon, j'insiste deux minutes de plus, mais est-ce que tu as une idée du timing désormais de comment vont s'articuler les choses? Tu sais à quel moment tu prends une décision définitive?
Je sais pas, comme je viens de te le dire.
D'accord.
Je sais pas encore, j'ai pas mis de date dans ma tête. Pour l'instant, je veux juste parler avec le coach, parler avec la Fédé et puis après on verra, je prendrai une décision.
D'accord, je rappelle juste que le tournoi de qualif démarre le 5 juillet hein et que la France ira aux Philippines.
Non, le 4, c'est du 4 au 10.
4 au 10, ok, mais alors ça va être le premier match de la France. En tout cas, Philippines, Nouvelle-Zélande, ça c'est pour la phase de poule. Et ensuite, il y a une demi-finale et une finale à gagner. Les adversaires éventuels, c'est Turquie, Canada ou Sénégal. On en reparlera tout à l'heure de ce tournoi de qualif.
En tout cas, les Philippines, ça va être sympa. Hein. Ça va être sympa. Je suis jamais allé là-bas. Et en plus, sur mes réseaux sociaux, c'est le pays qui est le plus représenté, en fait, sur mes réseaux sociaux. C'est là où j'ai le plus de fans, en fait, les Philippines. C'est
très
fort d'aller là-bas.
C'est très basket.
Ouais, c'est un pays de basket. Ils ont une salle de 35 000. Et donc, c'est vrai que les Philippines, ils viennent souvent. En plus, ils sont souvent à San Antonio. Il y a plein de fans qui viennent voir les matchs des Spurs. Donc, ça va être très, très intéressant d'aller jouer là-bas.
Là, c'est le pays de Manny Pacquiao, qui est évidemment le grand boxeur qu'on connaît, mais aussi dingue de basket, hein, puisqu'il s'est même fait son délire.
Ah, il adore le basket.
Être joueur entraîneur de basket il y a deux
ils
ans.
Ils avaient même une ligue professionnelle qui dépendait pas de la FIBA il y a une quinzaine d'années. Enfin bref, le basket, il est partout aux Philippines.
Bon, en tout cas, c'est la grosse info.
Le groupe, il va être difficile en tout cas. Il va être difficile le groupe. Hein. Bon, en clair, on joue pas la Serbie ou l'Italie, mais ça va pas être facile quand même parce que le Canada, ils sont très très talentueux et la Turquie, on sait jamais avec eux. Hein. Ils sont chauds aussi. Ouais.
Bon, alors du coup, on va changer un peu le programme et parler tout de suite de son qualif vu qu'on a démarré. Dis-nous un mot du Canada parce que le Canada, on les connaît peu en France, mais il y a pas mal de joueurs NBA. Il y a notamment un des jeunes talentueux
de
Minnesota.
NBA, ouais. Déjà il y a Steve Nash qui a repris le programme, donc c'est un peu lui qui gère en fait ce qui se passe avec l'équipe du Canada. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de joueurs NBA, dont Wiggins, le joueur qui joue à Minnesota, qui était le premier tour de draft. T'as Bennett aussi et Corey Joseph maintenant qui joue depuis 2-3 étés. Donc c'est une équipe quand même très très talentueuse. Et donc ils sont dangereux.
Il y a aussi le pivot de Cleveland, il me semble,
Tristan Thompson. Oui, il y a Kelly Olynyk de Boston. Tony a raison. Ils sont 12 en NBA et c'est une bonne équipe. Tony a raison aussi de parler de Steve Nash qui est dans l'arrière-boutique, qui a fait revenir Jay Triano, qui est actuellement assistant à Portland et qui a longtemps été coach aux Raptors, qui est un ancien international, bon joueur de ma génération. C'est la deuxième fois qu'il reprend cette équipe du Canada. Voilà, ce sera sérieux. Maintenant, il faut savoir aussi dans quel état ils seront et avec quels joueurs. Aussi.
Ça peut être comme nous, il peut y avoir des joueurs qui font l'impasse.
Et Tony a raison de parler de difficulté de la poule, parce que jouer les Philippines aux Philippines, ce sera pas, il va y avoir du blitz, il faudra être sérieux. La Nouvelle-Zélande, c'est sérieux, et après, sur le croisé, avec l'affection qu'on a pour le Sénégal, on peut imaginer que la Turquie va passer, ça peut ne pas être cadeau, et le Canada, on vient d'en parler. Donc, c'est une poule, il faudra être très sérieux.
Je rajouterais même que la Nouvelle-Zélande, la dernière fois qu'on les a croisés en compète officielle, on a perdu.
En 2010, on a perdu, et en perdant un goal à Vera, en se retrouvant en galère derrière.
Alors cela dit, on l'avait déjà dit, Tony, on se qualifie pas en affrontant des équipes faciles. Hein. C'est logique aussi que ce soit relevé.
Ouais, oui, ça c'est sûr. Hein. Bien sûr que c'est normal que ce soit relevé. Et de toute façon, c'est un gros tournoi. Donc voilà, il va falloir être prêt. Et puis en plus, ça dépend de tellement de choses, quelle équipe on va avoir. Donc non, ça va être difficile. Hein.
Bon, en tout cas, ça fait une incertitude de plus. Ça veut pas dire que l'équipe de France sera pas compétitive. Mais donc on ajoute à la liste des incertains Tony Parker. Hein. On a bien compris le message. Alors, il y a eu une grosse semaine pour les Spurs, donc on va quand même évidemment en parler. Il y a eu les deux matchs contre Cleveland et Golden State. Golden State qui vous a pas laissé respirer avec une victoire de 30 points. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, Tipeee?
Ouais, ils ont bien joué, hein. Ils ont mis dedans et nous on n'a jamais été vraiment dans le coup et puis on a perdu 26 ballons quoi, qui était un voilà le plus qu'on ait perdu sur un match de la saison. Donc c'est vrai que c'était bizarre comme match. Ils nous ont rentré dedans, ils ont été beaucoup plus physiques et on n'a jamais été dans le coup. Pour moi personnellement, j'ai joué 17 minutes, j'ai l'impression que le match il est passé super vite parce qu'en deuxième mi-temps j'ai joué que 5 minutes et puis après Pop il a fait jouer le banc quoi, comme on était à moins 20 et après moins 30 à la fin. C'était bizarre comme match.
Oui, alors ça c'est sûr que parfois les résultats bruts des Spurs, Jacques, faut pas les prendre pour argent comptant parce que parfois Pop fait tourner quand le score est fait quoi.
Oui, enfin,
dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs.
Il y a une coupure de courant dans ce match. Je dirais que les Spurs ils ont subi, mais ils étaient dans le match jusqu'au troisième et puis il y a eu un troisième carton terrible où la force physique est cumulée. Alors, déjà ils sont bons, ils sont adroits, ils sont forts physiquement. Si en plus tu perds du ballon et tu nourris leur manière de courir et de mettre des paniers rapides, ça devient une tuerie et ça a été le cas. Voilà, mais j'ai trouvé qu'il y avait de la cohérence pendant un moment. Maintenant, sur dans ce type de match, les Spurs vont être obligés de contrôler le rythme. Hein. Si jamais c'est les Warriors qui impriment leur tempo, ça devient compliqué.
Et puis il y a un deuxième match aussi dont il faut parler, c'est Cleveland. Alors eux par contre c'était le scénario inverse 15 jours avant, je crois vous les aviez largement battus, là ils prennent leur revanche. C'est pas tout à fait la même configuration que Golden State. Golden State a l'air vraiment sur un nuage.
Non,
quoi,
c'est hein. Différent là. C'était différent là, c'est juste bon Cleveland, on a pas fait un très très bon match, mais bon, ils ont pris leur revanche, il faut leur donner du crédit. Ils ont très très bien joué, ils avaient à cœur de faire, on va dire, un bon match, surtout après le changement de coach. Donc c'est comme ça, on fait 1-1 contre eux. Donc si on les revoit, ça sera en finale NBA, si on arrive à battre OKC et Golden State, parce que comment là le classement se défile là, à mon avis ça va être OKC au deuxième tour et Golden State en finale. Donc avant de repenser à Cleveland, on a des très 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 grosses équipes d'abord à battre, hein. Donc pour l'instant Cleveland c'est loin moi je trouve pour nous.
Ça fait un gros programme en perspective.
Cleveland c'est l'Est, hein. Donc une fois que tu as joué deux fois dans l'année, tu ne peux les retrouver qu'en finale. Donc c'est pas ta préoccupation. La préoccupation des Spurs c'est l'Ouest avec le gros os que sont les Warriors, OKC qui monte dans les tours, les Clippers qui s'engriffinent. Alors ils auront leurs limites mais ils jouent bien au ballon. Et puis voilà, puis derrière, ouais. Par contre, c'est un peu, Memphis, c'est un peu moins intéressant, un peu moins chiant que les autres années, je vais le dire comme ça.
Ouais, moi, je trouve qu'il y a un top 4, quoi, Jacques. Voilà, il y a un top 4, là, qui se détache, là. Et c'est pour ça que je veux parler un peu d'OKC, parce que tout le monde nous parle de Golden State, mais il faut vraiment pas qu'on fasse cette erreur, hein, parce que OKC, c'est une très, très grosse équipe aussi, hein. Ils vont pas être faciles à battre, hein.
D'ailleurs, ils ont deux joueurs dans le 5 majeur du All-Star Game.
Ils ont aussi deux joueurs dans les meilleurs scoreurs de la ligue. Ils ont le duo le plus efficace. Après, cette équipe-là, si elle fonctionne que sur deux joueurs, tu la joues. Mais si t'as un Ibaka, un Canter, un Waiters ou un Moreau qui sort du banc, qui te mettent des pantons, t'es en galère parce qu'ils ont le gros Steven Adams qui est bien en place. C'est une bonne équipe qui a une force physique. Enfin, Tony peut en parler mieux que moi, mais moi, quand je les vois, j'ai l'impression que physiquement, ça doit être mais une punition de jouer contre eux, surtout Westbrook quoi.
Clément nous appelle au 32-16 dans le Tipeee Show pour parler à Tony Parker, à Jacques Monclar sur justement la série en cours des Spurs. Salut Clément.
Messieurs, bonsoir. Félicitations Tony déjà, hein. Forcément. Bravo.
Merci.
Un beau papa.
Merci.
Ouais, moi j'appelais par rapport aux deux matchs que vous avez vécu là, les deux fessés, hein, on peut le dire, hein, parce que ça a été quand même deux scores relativement fleuves, même si ça reflète pas la saison, hein, d'autre manière, on le sait. Mais moi, j'ai l'impression que il y avait plusieurs petites choses. Est-ce que l'absence de Duncan était vraiment préjudiciable? Moi, j'ai pas forcément l'impression, puisque c'est pour avoir vu les matchs en direct, j'ai l'impression qu'en fait c'est le haut tempo et le fait de perdre énormément de ballons qui vous ont fait énormément de mal, je trouve.
Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. C'est les balles perdues nous ont fait très très mal, hein.
Et l'absence de Duncan,
c'est vrai que Ouais, non, mais c'est vrai que l'absence de Duncan a fait un peu mal aussi, mais plus voilà la façon dont on a joué, les balles perdues, comme Jacques l'a dit tout à l'heure, de toute façon quand tu joues Golden State, si tu contrôles pas le tempo, ça va être très difficile.
Merci Clément pour ta question et ton appel au 32-16. Le Tipeee Show continue avec dans un instant Julien Bento qui viendra nous raconter son ambition pour aller aux Jeux Olympiques de Rio. On fait juste d'abord le point sur le match de Ligue 2 entre le Paris FC et Clermont. C'est un match qu'on suit avec Jérôme Sillon. Jérôme.
Ouais, toujours 0-0 et une équipe de Clermont qui se procure les meilleures occasions avec tout à l'heure une belle tentative, une belle frappe du meilleur buteur de Ligue 2, Famara Diédiou, une superbe frappe des 25 mètres et qui a obligé Alexis Thébault, le gardien et capitaine du Paris FC, à une somptueuse claquette. C'est la meilleure occasion de la rencontre, toujours 0-0.
Merci Jérôme. Allez, le tennis et les Jeux Olympiques, c'est tout de suite dans le Tony Parker Show sur RMC.
RMC, le lundi 21h, 22h, c'est le Tony Parker Show. Pierre Dorian et Tony Parker.
Avec Jacques Monclar, on est ensemble jusqu'à 22h. L'actu basket, bien sûr, mais aussi toute l'actu sport qui plaît à Tony Parker et notamment celle des Jeux Olympiques et du tennis. On va en parler avec notre invité Julien Beneteau dans un instant. D'abord, le point, c'est la mi-temps entre le Paris FC et Clermont en Ligue 2. Jérôme, à la mi-temps.
0-0, la 24e journée de Ligue 2 et on retiendra notamment deux belles frappes de Rémi Dugimon du côté de Clermont et surtout cette frappe de Famara Diédiou à la 35e et la belle claquette d'Alexis Thébault du côté du PFC. On est trop brouillon devant la cage de Clermont-Ferrand. Allez, toujours 0-0 et donc c'est la mi-temps.
Merci Jérôme. Tout de suite, on l'accueille avec grand plaisir dans le Tony Parker Show sur RMC, l'un des habitués de la maison, Julien Beneteau. Salut Julien.
Bonsoir à tous.
Salut Julien.
Bonjour Jacques, bonjour Tony.
Ça va Julien, tu vas bien?
Ouais, écoute, ça va bien. Ça fait du bien de regoûter à la compétition. Là, je suis à Montpellier donc pour le tournoi de l'Open Sud de France, après une tournée australienne un peu de reprise, on va dire. Et là, je me sens vraiment mieux physiquement. Je joue demain soir mon premier tour, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir enchaîner les matchs, les tournois, les semaines de compétition pour essayer de revenir à un bon niveau.
Et justement, pas trop déçu par rapport à l'Open d'Australie où t'as perdu le premier tour, mais bon, t'étais absent pendant 6 mois, donc il me devait quand même manquer des automatismes, des repères, ça faisait longtemps.
Ouais. En plus, 8-10 jours avant l'Open d'Australie, j'ai une petite alerte aux adducteurs, donc... J'ai pas pris de risque la semaine d'avant, je devais jouer un autre tournoi à Sydney justement pour prendre des automatismes, mais ça a été repoussé, donc je savais que sur un format en 5-7 après 8 mois d'arrêt, bon, c'est compliqué. Je vois en plus un joueur Almagro qui est pas le dernier venu. Donc voilà, l'objectif c'était d'essayer de retrouver justement toute la mécanique un peu au niveau concentration physique et au niveau de jeu sur un match long. C'est ce qui s'est passé, j'ai tenu 4-7, on a joué 3 heures, bon, c'était correct. Après, évidemment, j'ai fait des erreurs à certains moments, par manque de rythme, par manque d'automatisme. Mais je sais que ça va revenir. Et le plus important, c'était que physiquement, ça tienne. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est sûr qu'en grand chelem, on espère toujours faire un bon parcours. Maintenant, j'ai envie de dire que ma saison, moi, j'ai envie de dire qu'elle commence vraiment demain et j'espère pouvoir voilà bien enchaîner à partir de demain.
Et justement, en parlant de demain, qu'est-ce que tu as fait de différent pour préparer justement ce match? Je sais que maintenant, c'est ton frère qui t'entraîne, ça se passe bien?
Ouais, écoute, avec Antoine, depuis le mois de décembre, on a repris. Chaque semaine, on essaie déjà de progresser physiquement dans ma phase de reprise. Et là, moi, je sors de dizaines, quinzaines de jours de gros travail physique. Parce que même en Australie, quand j'ai perdu en simple, je suis resté quelques jours pour le double, où je continue à faire tout un protocole vraiment très précis pour la zone des adducteurs, pour me renforcer, pour me sentir encore plus fort. Au niveau du tennis, là, cette semaine, on a pu mettre des super choses en place. J'ai retrouvé des automatismes, des petites sensations qui me rappelaient un peu le passé quand ça allait bien. Donc, c'était plutôt positif et donc pour demain, pour le match de demain, ça va être de arriver à imposer mon jeu, de pas trop me focaliser sur mon adversaire, mais vraiment sur mon jeu, imposer mon rythme pour reprendre vraiment le chemin des matchs, j'espère de la victoire et surtout de l'intensité physique et mentale qu'il faut mettre dans un match pour gagner.
Et 2016, tu penses que c'est ta dernière année ou pas?
Non, en tout cas dans ma tête, ça ne l'est pas. Je vais tout faire pour revenir à un bon niveau et à un bon classement en simple, de continuer de jouer le double sur les gros tournois avec Édouard Roger-Vasselin. Et j'espère avoir encore 2-3 ans max, mais au moins 2 belles années encore devant moi.
Bon, bah ça va alors, c'est cool. Et justement, tu penses quoi de la domination de Djokovic? Alors, tu penses qu'il peut arriver à égaler Federer?
Ouais, honnêtement, oui. Avec ce qu'il démontre depuis maintenant plus d'un an, et là, ce qu'il a fait en Australie, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Il est au sommet de son art. Il lui-même l'a dit en conférence de presse après la finale qu'il était en ce moment qu'il joue le meilleur tennis de sa vie. Il est bien à tous les points de vue. Il est devenu père depuis un an. Il dit qu'il est en harmonie totale dans toute sa vie et ça se ressent sur le terrain. Il a une sérénité, une confiance qui sont incroyables parce qu'il a accumulé tellement de victoires durant la dernière année que c'est flagrant quand on le voit sur le terrain. Et je pense que mentalement il a mis un coup aux autres, notamment à Murray. Quand on le voit jouer en finale Murray contre Djokovic, on sent que il y croit pas tant que ça, quoi. Il essaye, il se bat, mais ça sent pas le mec qui est persuadé qu'il peut le battre, parce que Djokovic a mis la barre pour l'instant trop haute pour tout le monde.
Julien Bento dans le Tipeee Show ce soir, on est ensemble jusqu'à 22h. Julien, on sort de l'Open d'Australie, puis le prochain gros morceau là, ça va être la Coupe Davis. Pour ouais. Toi, ça risque d'être un peu short, hein, pour avoir retrouvé la forme et être sélectionné, non?
Oui, je veux. Après, on ne sait pas ce que va décider Yannick. Je crois qu'il se laisse 2 semaines pour donner sa sélection. De toute façon, en simple, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont devant et qui méritent amplement leur sélection. Après, ça va dépendre sur quelles options il va vouloir prendre pour le double. Est-ce qu'il va se servir de joueur de simple pour faire la composition de double? Est-ce qu'il va vouloir une équipe spécialisée de double? On va voir si c'est le cas. Peut-être qu'on a une chance avec Edouard en fonction de ce qu'on fait la semaine prochaine. Mais effectivement, réaliste et honnête vis-à-vis de tout le monde. Le premier tour, moi, vient un peu tôt dans mon processus de retour et il faut un petit peu de temps pour de nouveau être compétitif à ce niveau-là et prétendre pouvoir jouer pour l'équipe de France. Et
est-ce que tu penses que l'équipe de France va pouvoir bosser dans une ambiance à peu près sereine, vu que bon, Gaël Monfils a expliqué que la plupart des joueurs n'avaient pas trop envie d'aller en Guadeloupe? Alors Yannick Noah a pas trop mal réagi, hein, parce qu'il a dit bon bah de toute façon on va régler ça tranquillement, il n'y a pas le feu, donc c'est une affaire qui s'est vite dégonflée. Mais est-ce que tu penses malgré tout que l'équipe de France sera sereine pour ce premier tour qui est très difficile quand même face au Canada, hein?
Ouais, moi ce que je pense c'est que Yannick quand il va annoncer son équipe il va déjà peut-être un petit peu à ce moment-là appeler les uns et les autres qui sont sélectionnés pour parler avec eux à ce moment-là, et ensuite quand toute l'équipe se retrouvera là-bas en Guadeloupe pour préparer la rencontre. Je suis quasiment sûr qu'à ce moment-là, Yannick va mettre les choses au clair vraiment et dire que voilà, maintenant on se prépare, on se concentre que sur la rencontre. Si les réactions, les états d'âme ou je ne sais quoi, et être vraiment 100% focalisé sur l'objectif, c'est de battre le Canada au premier tour. Et à mon avis, voilà, ça se fera. Quand Yannick sera au milieu de ses troupes, parce que là, ce sont ses adjoints qui étaient avec nous en Australie, Loïc Courteau et Cédric Pioline, volontairement de la part de Yannick. Et quand il va être vraiment présent physiquement, je pense que tout rentrera dans l'ordre.
Et tu penses que Gaël aurait mieux fait de rien dire, ou que c'est pas
non,
si grave?
Après, Gaël s'est exprimé, c'était après un quart de finale, il venait de perdre. Voilà, il a exprimé un ressenti. S'il l'a fait, c'est qu'il sentait le besoin de le faire. Après, maintenant, personne n'est là pour incriminer qui que ce soit. Et au contraire, comme a dit Yannick, maintenant, voilà, ce qu'il faut, c'est se tourner vers cet objectif, vers ce premier tour, et laisser tout ça de côté.
Bon, pour toi, Julien, quel va être le plus important? Quel objectif entre la Coupe Davis, justement, les Jeux, et puis tous les tournois ATP habituels de la saison?
C'est un peu tout. mais il faut prendre les choses dans l'ordre. Donc, dans un premier temps, si je veux pouvoir prétendre à être sélectionné aux Jeux Olympiques, il faut que j'ai fait des bons résultats en simple ou en double avec mon partenaire. Donc, pour ça, il faut que je joue bien sur les tournois ATP, et c'est aussi ces performances-là qui me permettront de retrouver l'équipe de France. Donc, il faut voir le bout du chemin, mais il faut pas oublier le chemin. Et pour moi, le chemin aujourd'hui, il passe par chaque semaine où je suis inscrit, où je suis en lice dans un tournoi. Voilà, moi, chaque semaine, c'est chaque match que je gagnerai, c'est une étape de grappiller dans mon retour, et c'est ce qui me permettra de progresser au classement, d'être plus compétitif, de gagner des matchs et de pouvoir prétendre à une sélection en Coupe Davis ou à une sélection aux Jeux Olympiques.
Bah, c'est ce que j'allais te dire, Julien. Ton objectif, quand tu dis équipe de France, bon, tu l'as dit toi-même, c'est un peu court dans l'immédiat, il y a des gens en simple qui sont installés, mais c'est d'aller en double à Rio, quoi.
Exactement. Ça, c'est sûr que t'as complètement raison, Jacques. Le simple, c'est très dur de gagner une place aujourd'hui, surtout de là où je pars. Mais en double, il y a quelque chose à faire. Et pour l'avoir vécu à Londres, c'est quelque chose de tellement magique que ça me donne une motivation et une force supplémentaire pour tout faire au quotidien, que ce soit à l'entraînement et en match, pour arriver à réaliser cet objectif.
Merci beaucoup, Julien, d'être venu dans le Tipeee Show nous raconter tout ça.
Merci Julien. À bientôt, Julien.
Ciao. Bonne chance, Tony, pour ce soir. À bientôt.
Julien Beneteau dans le Tony Parker Show. Dans un instant, on va parler Pro A et équipe de France féminine avec Nobel Bungu Kolo, le joueur de Limoges, et Marine Johannes, qui est un des talents de l'équipe de France féminine. Et puis, bien sûr, on parlera du All-Star Game qui approche à grands pas. C'est le Tony Parker Show et vous êtes les bienvenus au 32-16 et sur Twitter. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. Pierre Dorian et Tony Parker.
Et avec Jacques Monclar, on continue le Tony Parker Show jusqu'à 22h. Ce soir, c'est San Antonio contre Orlando, l'équipe d'Evan Fournier. Et il faut bien, je répète toujours, mais il faut bien se rendre compte de la chance que vous avez de parler à un joueur NBA à quelques heures d'un match. C'est comme ça tous les lundis soirs. Et c'est uniquement sur RMC. Puis l'info de la soirée, je vous la rappelle aussi, si vous nous rejoignez, c'est que Tipeee nous annonce un heureux événement puisqu'il attend un deuxième enfant. Et il se trouve que ça peut avoir des conséquences sur la saison de l'équipe de France, puisque du coup tu es incertain pour le tournoi de qualif au mois de juillet. La décision n'étant pas prise, on va le préciser quand même. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur rmcsport.fr. On a déjà mis toutes les infos. Le basket et la proie, c'est parti.
RMC, le débrief basket.
Avec l'ailier du CSP Limoges, Nobel Bungu Kolo dans le Tipeee Show.
Bonsoir tout le monde.
Salut Nobel.
Salut Jacques. Salut Tipeee.
Limoges qui est 10e de Pro A. Hein. Après un début de saison mouvementé, ça commence à rentrer dans l'ordre, Nobel ?
Ça commence à rentrer un tout petit peu dans l'ordre. Là, ça fait 4 victoires d'affilée qu'on a, toute compétition confondue. Donc ça va mieux pour nous.
Nobel, il y a un impact de l'arrivée de coach Vujosevic. Il y a un impact aussi de, sans doute, que Bo McCaleb a retrouvé une forme de match. Mais tous, à tour de rôle, vous faites des perfs. Ce week-end, c'est toi. Vous avez pris confiance à Valence et depuis, vous surfez sur un truc nouveau, quoi. Nouveau, vous retrouvez des sensations que vous aviez l'année dernière et il y a 2 ans en fin de saison.
Ouais, c'est surtout la première victoire contre Valence qui nous fait ce petit déclic là, on va dire. Et après celle-là, on a réussi à continuer et à se battre. On joue avec une nouvelle intensité, un nouveau coach, Bo McCaleb qui nous apporte énormément. Et ouais, ça va beaucoup mieux pour nous. C'est une nouvelle saison qui commence pour nous, on va dire.
Ouais, on a un Limoges qui vit une saison curieuse, hein. Tipeee champion en titre, ils sont 10e, ils ont déjà connu un changement de coach. Et puis finalement, qui dit que la saison va pas finir en beauté, tout est encore possible, hein. C'est des saisons un peu particulières, hein. Tu suis ça de loin,
sûr,
toi, des États-Unis.
Et... Ouais, tout est possible, hein. Non, mais tout est possible. Et après, si le coach, il arrive à les inspirer, et c'est ce que je pense qu'il est en train de faire en ce moment, ils peuvent retrouver leur niveau et être très, très dangereux en fin de saison. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Nobel, mais le coach, j'ai l'impression qu'il vous a bien piqué, là. Il a trouvé les mots.
On a des petits problèmes de liaison avec San Antonio aujourd'hui, mais ça va se régler très rapidement. Parle-nous de ce Dusko Vujosevic. Il a une réputation de dur. Est-ce que c'est le cas, Nobel?
C'est un dur de dur, mais c'est aussi un très très bon manager, on va dire, parce qu'il a, dès qu'il est arrivé, il a commencé à nous fixer des règles. Des règles un peu bizarres, parce qu'on se disait on n'est pas des enfants, des règles un peu strictes. Mais après tu vois où il veut en venir et tu comprends un peu ça, où il t'emmène. Et je pense que ouais, il a su nous mettre en confiance et nous montrer qu'il rigolait pas. Après à l'entraînement on bossait beaucoup, à des heures pas comme les autres, mais ça paye, donc quand ça paye, tous les joueurs sont à l'écoute et on se bat pour la victoire.
Qu'est-ce qu'ils ont ces coachs de l'ancienne Yougoslavie là? J'ai l'impression que chaque fois qu'il y en a un nouveau qui arrive en France, Jacques, on dit la même chose. Alors moi je les connais pas tous, hein, j'aurais pas de faire la différence, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, on dit que c'est un dur.
Oui, bah c'est une école, hein, et globalement même ceux qui sont des personnages charmants comme par exemple Bosia Tonjevic sont des gens d'une dureté dans l'entraînement. Bien maintenant ils vont s'adapter, il va pas entraîner Nobel Mungukolo ou Ali Traoré comme il entraînait certains jeunes joueurs à Belgrade, parce qu'il va être obligé de composer aussi avec la culture de ces joueurs. Mais ce sont des formidables, ils sont capables de tirer le meilleur de toi-même et surtout de tirer le meilleur d'un collectif. Et quand ils arrivent à bien faire passer leurs idées, leurs équipes en général, il y a une répartition du temps de jeu. Un peu ce que font les Spurs d'ailleurs. C'est-à-dire que tu joues sur un temps de jeu moins important, enfin je sais pas Nobel ce que t'en penses, mais d'une manière beaucoup plus intense. Beaucoup plus intense.
Ben c'est vrai qu'il arrive à mobiliser tout le monde. On joue pas énormément, on va dire pas plus de 30 minutes par moment. Mais ouais, tout le monde est à l'écoute, tout le monde est et on va dire qu'il parle pas français, donc il a le traducteur. Et tout ce qu'il dit, on exécute, quoi. On cherche pas vraiment à comprendre le pourquoi du comment on exécute. Et il a une très grande connaissance surtout, donc ça a porté ses fruits. Et quand ça marche, personne ne va aller dans. Donc on est tous à l'écoute et entraînement intense, ça c'est super nouveau parce que on enchaîne quand même les matchs, mais ça va, ça porte ses fruits, donc ça va.
Nobel Mungukolo dans le Tony Parker Show, les coachs,
serbes souvent considèrent que pour que les joueurs parlent pas trop, il faut qu'ils soient essoufflés. Donc les faire courir, c'est un bon début. Une fois qu'ils sont essoufflés, ils parlent moins. Donc voilà.
Tiens, justement, t'en parlais, mais je voulais te poser la question, Nobel, puisque dans ses effectifs, diverses nationalités, un coach d'ex-Yougoslavie.
Deux anciens joueurs quand même de Vujosevic. Hein.
Dans l'effectif.
Ouais, Makaleb et Westermann.
Ça parle en quelle langue? Il parle anglais ou pas du tout?
Non, il nous parle en serbe.
En serbe.
Deux fois, il y a quelques mots qu'on comprend, quelques insultes, mais bon, tant mieux qu'il parle pas français ou anglais, je pense, deux fois. Mais il a son traducteur qui essaie de traduire le mieux possible en anglais. Et on va dire à ce niveau-là, on parle tous anglais un peu, un minimum quand même.
Ouais, c'est indispensable là, parce que sinon, s'il faut un troisième traducteur, c'est compliqué. Tiens, les supporters de Limoges sont là dans le Tony Parker Show. C'est Jérémy qui nous rejoint au 32-16. Salut Jérémy.
Salut à tous, salut Nobel.
Salut.
Et on va rétablir la liaison avec son Antonio d'un instant à l'autre. Hein. Ne vous inquiétez pas, Tipeee n'est pas loin. On t'écoute Jérémy. Tiens, il est là, ouais. Tipeee.
Voilà, je voulais revenir un petit peu sur la Coupe d'Europe avec Nobel, vu qu'ils ont un gros déplacement mercredi à Oldenburg. Après les deux victoires contre Valence, vous êtes bien replacé au classement. Le match aller contre Oldenburg, je pense que tu seras d'accord avec moi, Nobel, on doit le gagner 10 fois ce match et au final on perd de 10 points. Comment il le sent pour mercredi, savoir si l'équipe est, ouais, il y a moyen, je pense, d'aller se qualifier. Donc voilà, comment vous vous sentez?
Là c'est un match à l'extérieur, ils sont premiers du championnat de la poule au Oldenburg, donc un très très gros match pour nous, sachant qu'on a perdu en plus à l'aller. Là, c'est un match qu'on essaie d'attaquer le plus sérieusement possible, hein, puisqu'on sait que Valence a battu Oldenburg et nous il nous faut absolument une victoire, quoi, comme on a perdu à la maison, et une victoire avec plus de 10 points, je crois bien. Donc c'est un match qu'on essaie de préparer au mieux possible. Je pense qu'ils ont un très bon coach aussi, Oldenburg, et le coach essaie de trouver des choses pour les stabiliser chez eux.
Merci Jérémy pour ton appel. L'Eurocoupe donc pour Limoges et Nobel Mungukolo qui est l'invité du Tipeee Show. Tipeee, on te retrouve au téléphone, hein, parce qu'à San Antonio il fait 28 degrés mais il n'y a plus d'internet.
Ça déconne. Bon, désolé.
désolé.
Du coup, Nobel, bah, ce fut court, mais bon. Hein. Merci beaucoup d'être venu dans le Tony Parker Show. T'as eu le début sur une ligne et la fin au téléphone avec Tony, tu vois.
Bah, désolé, Nobel. Hein. Enfin, merci, hein. Bonne chance hein, pour la fin de saison. Hein. Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'invitation. Bonne chance à vous.
Merci beaucoup, Nobel. C'est les aléas de la radio. C'est comme ça, ça arrive de temps en temps. Juste avant de parler basket féminin avec Marine Johannes, on va refaire un détour par la Ligue 2 avec Paris FC Clermont. Jérôme Sion, le début de la deuxième mi-temps, Jérôme.
Ouais, 53 minutes de jeu ici à Charletti, toujours 0-0 entre le Paris FC et Clermont. Aucune occasion en seconde période, une maîtrise technique plutôt clermontoise. Je rappelle que les Clermontois sont 5e à seulement 2 points du FC Metz qui occupe la 3e place du classement, synonyme d'accession en Ligue 1. Et donc forcément pour Clermont c'est un match très important, mais également pour le PFC qui lui lutte pour sa survie. Le PFC qui est décroché par Nîmes à 5 points donc du premier non relégable, les Parisiens qui doivent absolument s'imposer, mais il va falloir se créer des occasions déjà, ce qui est mal parti. 54 minutes de jeu à Charletti, 0-0 entre le PFC et Clermont.
Merci Jérôme. L'équipe de France de basket féminin avec Marine Johannes, la joueuse de Mondeville, toute jeune joueuse de 21 ans, très prometteuse, elle est là dans le Tipeee Show. Salut Marine.
Salut
Marine, c'est Tipeee, ça va?
Oui, ça va et toi?
Ben, ça va très bien. Hein. Bon alors, quel souvenir tu gardes alors de ton premier rassemblement avec les Bleus?
Franchement, c'était vraiment super. C'est une super expérience. Franchement, quoi, je stressais beaucoup avant d'y aller, mais en fait, ça s'est très bien passé.
Je précise juste que Marine a découvert l'équipe de France lors des qualifs de l'Euro à la fin de l'année dernière et que pour son premier match, elle a enquillé 15 points hein, quand même.
Ouais, j'ai vu à côté Pays-Bas justement, 21 ans, alors tu t'attendais à cette première sélection, un petit tour en équipe de France?
Non, pas du tout, j'étais vraiment surprise et j'étais super contente bien sûr.
Et justement, je lisais une déclaration de Céline qui disait qu'elle n'avait pas entendu ta voix au début là, que deux jours après, c'était impressionnant quand même d'être avec Céline, t'as l'impression que t'as beaucoup appris?
Ah bah oui. Oui, oui, beaucoup. Quand j'étais plus jeune encore, j'étais fan du NERC, donc c'est sûr que ça fait bizarre déjà de les jouer en ligue, mais là, d'être avec elle dans l'équipe pour un stage, c'est vraiment une super expérience.
En tout cas, tu parlais de pression, que tu étais un peu stressée, mais bon, premier match, 15 points, tu t'es tout de suite senti bien.
Ça a été, oui. Bah, en fait, la semaine de stage, j'ai beaucoup stressé. C'était un peu difficile pour moi. Et après, la deuxième semaine, j'ai commencé à un peu plus me lâcher et les filles m'ont rassuré. Donc, ça a été.
Et donc, les JO de Rio, alors, t'y penses maintenant? C'est un objectif?
J'y pense, mais je me dis que je suis jeune pour l'instant, donc j'ai le temps pour ça.
Marine Johannes, la joueuse de Mondeville et donc de l'équipe de France de basket dans le Tony Parker Show. Elle n'ose pas le dire, Marine, Jacques, elle vise les jeux.
Bah, elle aurait
dans
tort.
Sa position, c'est...
Elle aurait tort.
On comprend.
Elle commence à être attendue dans le Landerneau du basket français et son développement, ça passe aussi par jouer par des grandes compétitions. Hein, ce qu'elle fait, son arrivée, même si on va mettre entre guillemets les Pays-Bas, directement au collé 15, ça montre la qualité. Je voulais savoir, Marine, tes aspirations, c'est des joueuses féminines, des garçons, c'est quoi qui te fait avancer, tes modèles, les choses que tu piques à droite à gauche?
Je regarde beaucoup de NBA, donc je m'inspire beaucoup de joueurs NBA. Je suis une grande fan de Jordan ou de Kobe, et quand j'étais jeune, j'aimais bien Jason Williams. Maintenant, je suis un peu tout le monde. Stéphane Curry aussi, bien sûr, parce qu'on entend beaucoup parler de lui. Mais voilà. Aussi beaucoup les Français, mais voilà.
Ouais, les Français, c'était chouchou quand même, ouais.
Marine, pour aller au jeu, il y a un tournoi de qualif olympique qui sera en France hein, au mois de juin.
À côté de Nantes.
Avec un tirage au sort Cuba, Nouvelle-Zélande et France, donc pour le premier tour. Et puis ensuite, c'est un match à gagner, hein, on est d'accord, contre Cameroun, Argentine ou Turquie. Ça semble, alors je dis pas que c'est facile, mais ça semble quand même du niveau de l'équipe de France. C'est quand même jouable hein, ce tournoi de qualif.
Je pense que oui, c'est possible pour l'équipe de France. Oui.
Oui, et voilà. Marie, tu l'imagines comment ton avenir? Tu veux rester en France, tu veux aller en Europe, tu penses à la WNBA, enfin, tu le vois comment ton avenir?
Pour l'instant, je suis bien en France. Après, la WNBA, c'est un peu un rêve pour moi. J'aimerais vraiment essayer un jour d'y aller et on verra.
Donc pour l'instant, tu dois rester à Mondeville alors pour l'instant?
Il me reste encore un an de contrat à Mondeville, donc pour l'instant je pense pas trop à bouger, on va dire.
Après cette année, t'as encore un an, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ok. Non, j'étais juste curieux de voir un peu c'était quoi tes objectifs.
Marine Johannes dans le Tony Parker Show, joueuse de Mondeville et donc de l'équipe de France de basket. Merci beaucoup Marine. Nous on a découvert ta voix plus vite que Céline Dumer, donc on est ravis parce que ça apporte un peu de fraîcheur et c'est toujours très bien dans les équipes de sport co. Merci beaucoup Marine.
Merci à vous.
Ciao. Merci Marine, à bientôt.
Salut, à bientôt.
Allez, le Tony Parker Show revient très vite avec toute l'actu de la NBA. On parlera notamment du All-Star Game. Vous êtes les bienvenus au 32-16. Mais d'abord, on va retourner à Paris FC Clermont en Ligue 2 avec Jérôme Sillon.
59 minutes de jeu ici à Charletti. Toujours 0-0 entre le PFC et Clermont.
Merci Jérôme. La dernière ligne droite du Tony Parker Show, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, le lundi, 21h, 22h, c'est le Tony Parker Show. Pierre Dorian et Tony Parker.
Le Tipeee Show avec Jacques Monclar jusqu'à 22h. Il nous reste quelques minutes ensemble. Vous pouvez intervenir au 32-16. Et si vous nous rejoignez, je vous rappelle quand même que l'émission a démarré avec une grosse info que nous a donnée Tony Parker, puisque Tipeee, tu attends un deuxième enfant. Information pour laquelle on te réitère nos félicitations, mais qui a des implications quand même importantes, puisque tu n'es pas certain de pouvoir être au tournoi de qualif olympique, ni même aux Jeux Olympiques. La question est en suspens. D'ailleurs, plus j'y pense, plus je me dis que quand même, ça veut peut-être dire il y a un scénario dans lequel tu as déjà joué ton dernier match en équipe de France, si je dis pas de bêtises. À moins que tu prolonges d'une saison, du coup.
Ah, ça, c'est trop dans le cinéma et les drames. C'est bon, je t'ai dit, je vais chipper, on verra.
C'est pas du cinéma, c'est pas du drame, mais
non,
c'est
mais
de la logique.
Tu vas pas déclencher un compte à rebours. Effectivement, dans les scénarios envisageables, il y a celui-là, mais il y en a d'autres.
Oui, d'accord.
Alors, tu vas pas tous les ressasser jusqu'à ce qu'ils prennent sa décision.
Jacques, c'est quand même Tony Parker, là, tu vois.
Il est Hollywood, Pierre Dorian.
Oui, ça y est.
T'as qu'à pas avoir été le meilleur joueur de basket de l'histoire en France.
Tu nous l'as énervé, là. Il est tout sa femme, elle va récupérer un zombie ce soir.
Bon, en tout cas, tout ce que nous a dit Tony tout à l'heure, plus dans le détail, c'est sur rmcsport.fr, hein, si vous voulez vous faire une idée plus précise, même si je rappelle encore une fois que la décision définitive n'est pas prise. L'actu NBA, c'est bien le All-Star Game qui approche. Jacques qui a préparé ses petites valises, hein, qui va faire un beau voyage entre San Antonio et Toronto.
Ouais.
Alors, on n'était pas d'accord avant l'émission.
Caroline du Nord aussi,
Tipeee,
oui.
Je disais à Jacques que ça me semblait assez déséquilibré, que l'équipe de l'Ouest avait l'air beaucoup plus forte que l'équipe de l'Est. Jacques n'était pas d'accord. On peut rappeler les titulaires. C'est Curry, Kobe, Westbrook, Durant et Kawhi Leonard à l'Ouest. Et de l'autre côté, Kyle Lowry, Dwayne Wade, Paul George, LeBron James et Carmelo Anthony.
Et c'est quoi la question?
La question, c'est est-ce que tu trouves ça déséquilibré ou pas, a priori?
Plus fort
à l'Ouest, non?
Ouais, c'est deux bonnes équipes. Je suis d'accord avec Jacques.
Alors, est-ce que dans la sélection globale, il y a un joueur ou deux que t'aurais aimé voir qui n'est pas là, ou tout ça te semble cohérent?
Non, ça me semble cohérent. Après, de toute façon, comme je le dis chaque année, hein, à l'Ouest, t'as 12 joueurs qui sont pris et t'en as 4-5 autres qui auraient pu être dans l'équipe aussi. Et puis à l'Est, c'est pareil. Hein. De toute façon, la NBA, c'est quand même relevé et c'est dur de sortir 24 joueurs, donc voilà, c'est comme ça chaque année.
De toute façon, tu me disais, Jacques, dès lors qu'il y a LeBron dans une équipe, déjà, ça change tout.
Oui, mais enfin, tu sais, c'est pas une opposition. Tony a raison, il y a des joueurs qui jouent niveau All-Star et qui y vont pas. Cette année, on peut penser que Damien Lillard ou Gallinari, voire Gordon Hayward, sont des gars qui sont restés sur le côté. Kemba Walker, Kyrie Irving, qui a pas beaucoup joué de l'autre côté à l'Est. Si tu veux, il y a toujours des mecs qui font des... Il y a un truc rigolo, Tony, quand même, c'est que sur les feuilles de match en saison régulière, vous pouvez être 13, Hein, on est d'accord, puisqu'on voit sur les feuilles de match, il y a 13 joueurs qui peuvent rentrer. Et ben, All-Star, il ferait bien d'en mettre 13, ça arrangerait bien tout le monde, parce que une place de plus de chaque côté, ça aiderait. Moi, vraiment, enfin, les deux équipes sont, regroupent les par poste, il y a une belle opposition, je trouve, cette année, voilà.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça pourrait être un truc que la NBA peut changer, et à chaque fois ils nous demandent des trucs, ouais, c'est pas mal ça. Moi je pousse plus pour la pré-saison au lieu d'avoir 8 matchs qu'il y a que 4 matchs, comme ça on commence la saison directement. Ouais.
Surtout les gros comme ça.
Exactement, parce que 8 matchs en pré-saison, il y a 2 semaines là qu'on pourrait garder pour qu'après en fait il y ait moins de back-to-back. Et que tu puisses en fait étendre en fait étaler la saison en fait sur ces 2 semaines en fait, parce que je trouve que les 4 matchs de pré-saison ils servent à rien quoi.
Plus de matchs de pré-saison, plus d'équipe de France, tu veux 3 mois de vacances en fait. Dis-le nous, c'est ça en fait.
S'il y a plus de back-to-back, Duncan. S'il y a plus de back-to-back, Duncan il va jouer jusqu'à 50 ans. Hein.
Ouais, c'est clair. Non mais je trouve que ces 2 semaines et ce serait bien s'ils pouvaient étaler la saison, parce que ça rendrait les matchs de meilleure qualité, moins de blessures. Et parce que les back-to-back, c'est toujours difficile. Quand t'as 4 matchs en 5 jours, quand t'as 2 back-to-back de suite, c'est difficile, quoi.
Bon, en tout cas, toi, du coup, cette année, il n'y a pas de All-Star Game. Est-ce que tu vas faire comme l'an dernier, prendre des belles petites vacances? Tu fais quoi? C'est quoi ton programme?
Oh, je vais sûrement aller en vacances. On va voir. Mais ouais, je vais profiter. C'est vrai qu'on, maintenant, en plus, on a 2 jours en plus par rapport au nouveau programme, là. Donc, ça, c'est sympa.
Et puis pour finir sur le Star Game, bonne nouvelle pour Greg Popovich qui va de nouveau coacher
l'équipe
à l'Ouest. Bon, c'est sympa, c'est un honneur toujours, non?
Je sais pas s'il est vraiment content.
Ah bon.
En tout cas, il y va, ça c'est sûr.
Mais t'as vu, il y a eu une image qui était drôle sur Internet où il dit à Ettore Messina, t'es content, tu vas aller à Toronto, hein, tu vas manger de la pizza, tu vas manger de la pizza, il lui dit.
L'actu de la NBA sur RMC dans le Tipeee Show, on va accueillir Gabriel, un supporter de Boston au 32-16. Salut Gabriel.
Ouais, salut le Tipeee Show, salut. Bah écoutez, moi je suis content au moins, voilà, Isaiah Thomas il est là et je pense que tout Boston attendait ça, donc ça fait plaisir.
Alors tu voulais nous parler d'un sujet très particulier en NBA, Gabriel.
Ouais. Alors écoutez, la dernière fois je suis tombé sur un match, alors excusez-moi l'expression, je suis tombé sur une purge. C'était le match entre les Pistons et les Rockets en fait. Et j'ai regardé ce match et en fait j'ai été surpris parce que on la connaît cet acte sportif qu'on fasse une faute sur un big man pour qu'il aille ensuite au shoot au lancer franc et puis qu'il se plante au lancer franc. Donc là c'était le cas sur Drummond qui a shooté je crois 36 fois dans le match, 36 lancers francs. Et surtout moi ce qui m'a surpris c'est que les fautes sont intervenues mais vraiment en tout début de troisième et en tout début de quatrième quart temps, alors que le jeu n'avait même pas commencé quoi. C'était le début du match, 12e minute parce que le compte à rebours va dans l'autre sens, et il y a eu ces fautes, et j'ai été surpris parce que je me suis dit mais c'est pas possible, enfin il faut faire quelque chose quoi. Les pauvres, les mecs sont là, ils ont même pas commencé à jouer et puis directement on va aux 5 fautes sur le big man et tout. Et donc je me suis posé la question, est-ce qu'il faudrait à un moment, pas je sais pas, une espèce de loi justement pour pouvoir protéger un peu les big men et puis éviter à chaque fois de les emmener au lancer franc, enfin je sais pas, ça pourrait être un lancer franc technique quelque chose, mais histoire justement d'éviter ce genre de choses pour les joueurs et aussi pour le public, voilà, de tomber sur des purges finalement qui ont aucun intérêt quoi.
T'en penses quoi de ces matchs, enfin cette tactique qui consiste à faire le hack shack sur les pivots adverses?
J'ai vraiment pas d'opinion sur ça. Franchement, moi, ça fait partie du jeu. Ça me dérange pas, quoi. Je m'en fous.
Après, Jacques, ça peut, c'est vrai, comme l'a dit Gabriel, faire des matchs peu intéressants.
Ça peut manger le spectacle, mais tant que la règle existe, moi, je comprends que les coachs l'utilisent. Après, comment la contourner? Il y a une vraie réflexion de la NBA. Peut-être faire tirer le lancer franc par un autre joueur qui est sur le terrain de la même équipe. Donc ça arrêterait. Mais d'un autre côté, au fond des choses, est-ce que c'est pas le rôle d'un basketteur professionnel
de savoir mettre
au moins un lancer franc sur 2?
Parce qu'en plus, sur les 30, il en a raté un certain nombre de Drummond.
Je crois que c'est 12 sur 37. C'était 36, c'était Howard le coup d'avant. Tant que la règle existe, moi je comprends qu'il l'utilise. Après, les big man, tu dis faut les protéger. Tu crois que les petits sont protégés quand les gros babars ils arrivent dans la raquette? Non plus. Qu'ils mettent leur lancer franc. Hein. Qu'ils les shootent à la cuillère, qu'ils fassent des drones. propre, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais qu'ils mettent leur lancer franc.
Bon, merci Gabriel. C'est vrai que c'est un sujet intéressant. C'est assez technique, mais c'est intéressant d'avoir l'avis des spécialistes. Tiens, on va garder 2 minutes, Tipeee, pour parler d'une de tes nombreuses activités hors basket. Tu nous avais déjà parlé de ce film que tu coproduis avec ton ancien coéquipier Michael Finlay, qui fait un sacré buzz aux États-Unis. Ça s'appelle Birth of a Nation. C'est sorti ou pas encore?
Non, c'est pas encore sorti. On était au festival de Sundance, qui est peut-être le plus gros, c'est le plus gros festival, on va dire, aux États-Unis. Et donc, hier ou il y a 2 jours, donc on a gagné le festival, on a été élu meilleur film. Et donc, en plus, on a eu un message ce matin, à Instagram, là, de Oprah Winfrey, là, c'est trop bien, qui félicitait justement Nate Parker, celui-là qui a fait le film. Et donc, moi, je suis très content pour toute l'équipe. Ça fait depuis longtemps que j'avais envie de me diversifier et de me lancer dans le cinéma. À force de regarder des films et des séries télé, ça m'a toujours attiré, mais je voulais le faire de la bonne façon, quoi, commencer avec un bon film. Et donc il y a 9 mois, j'avais dîné avec Nate, donc l'acteur principal du film et le directeur, et a écrit, enfin il fait tout de toute façon dans le film, Nate. Et donc j'avais vachement apprécié ce dîner, et voilà, il m'a inspiré et il m'avait envoyé le script et ça m'a donné envie d'investir en lui. Et donc avec Michael Finlay, ça fait au moins 4-5 ans maintenant qu'il est dans le monde du cinéma. J'avais justement rencontré Michael et je voulais voir comment il avait fait, voir un peu ses connexions. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans le cinéma, quoi. Et donc pour un premier film, c'est super, quoi, d'avoir ce film. Ils n'arrêtent pas d'en parler aux États-Unis en ce moment. Ils parlent même des Oscars en 2017. Donc moi je trouve ça super sympa pour toute l'équipe et surtout pour Nate.
Alors ouais, justement les Oscars, c'est pas encore certain. Il se dit oui qu'il pourrait être projeté, voire avoir une récompense. Ça c'est parti hyper fort.
Mais ça sera plus l'année prochaine pour nous, parce que là on espère ça aille au cinéma en septembre. En fait c'était entre Netflix et justement Fox, et donc on a battu le record de vente pour Sundance. Et justement, on est allé avec Fox parce qu'on voulait que le film soit au cinéma. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas allé avec Netflix. Donc, justement, en septembre, j'espère que voilà, il sera au cinéma et que tout le monde pourra aller le voir. On fera peut-être une apparition aussi au Festival de Cannes, parce que maintenant qu'on vient de gagner Sundance, mon manager m'a dit on va peut-être aller à Cannes. Donc, c'est sympa.
Et du coup, t'as déjà d'autres projets en cours ou pas? Sur le cinéma.
Ouais, j'ai déjà aussi 2 autres films qui sont en train d'arriver. Celui-là, c'était le premier parce que j'étais au tout début en fait de l'investissement. En fait, j'étais un des premiers producteurs, on va dire, à produire ce film. Et donc, j'en ai 2 autres qui arrivent. Mais bon, vous allez voir. De toute façon, ça va venir petit à petit.
Bon, parfait. Merci Tipeee.
Mais merci à vous, à très bientôt, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bon match face à Orlando.
Merci. Et puis Jacques, je te vois bientôt, Jacques, dans quelques jours.
Ouais, vendredi.
Ouais, à bientôt, bon voyage, Jacques. À très bientôt.
Ciao.
À la semaine prochaine pour le Tony Parker Show.